Bonjour, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour apporter une parole, la parole que le Seigneur m'a mise à cœur pour ce matin et qui va nous amener à méditer sur le sens de la marche. Merci à Marie-France de nous avoir introduit déjà dans ce thème par le temps de louange que nous avons pu vivre jusqu'à présent. C'est un temps de vacances, un temps propice pour parler de marche, pour parler de sport. Nous sommes revenus la semaine dernière. Nous avons pu faire des marches en montagne, des activités. Ça a été bienfaisant, ressourçant. Parmi vous, peut-être certains n'ont pas cette occasion de partir, de se détendre. J'espère de tout cœur que vous puissiez vous détendre quand même et profiter d'un temps de repos avec le Seigneur, même si vous devez rester à Paris pour cet été. Nous étions en montagne, comme je le disais, et cela m'a inspiré. Inspiré pour parler de l'itinéraire de la vie chrétienne. Quand on veut entreprendre la marche avec Dieu, il nous faut être endurant. Il nous faut savoir où l'on veut aller, il faut avoir un but. Il faut être prêt à affronter les difficultés, les dangers de la route. Il faut être correctement équipé. On ne va pas en montagne avec des sandalettes, mais on choisit des chaussures qui vont nous permettre d'affronter les pierriers. En pensant au danger, il nous faut penser à l'orage qui peut survenir. On va prendre un imperméable avec soi. Il peut faire froid, nous nous sommes munis de gants et de bonnets pour partir le matin, en plein été, parce que la montagne, c'est un autre environnement que la ville. Nous avons pu passer par des endroits magnifiques et nous avons loué le Créateur. Et puis nous sommes aussi passés par des endroits dangereux, j'y reviendrai, et nous avons remercié Dieu de nous avoir protégés sur la route. Eh bien, l'itinéraire en montagne est métaphorique, il est symbolique de notre itinéraire de la vie chrétienne. Le thème de la marche dans la Bible est très présent. Et pour une raison toute simple, c'est que les gens marchaient beaucoup, c'était leur moyen principal de locomotion dans l'Orient antique. Quand il s'agissait de se déplacer, les gens allaient à pied. Ils avaient parfois l'occasion d'avoir un animal, quand c'était le cas, c'était généralement un âne. L'âne qui était domestiqué bien avant le cheval, bien avant le chameau, et qui a toujours été le moyen de transport le plus populaire. Mais même avec l'âne, généralement quelqu'un marchait à ses côtés. Le cheval, à l'époque de l'Ancien Testament, était utilisé essentiellement comme un instrument de guerre. Quand les Romains ont construit plus de 80 000 km de routes pavées, toutes ces routes menaient à Rome, d'où le dicton « tous les chemins mènent à Rome ». Mais entre les routes elles-mêmes, il y avait parfois des routes peu carrossables qu'on ne pouvait pas emprunter. Même si le cheval s'est développé à l'époque romaine, ce n'était pas le moyen courant, le plus courant. C'était un moyen très onéreux de déplacement. On pouvait peut-être prendre le bateau sur la mer, mais la Méditerranée ne se laissait naviguer qu'en été. Donc le moyen le plus courant, c'était la marche. Et les gens apparemment marchaient beaucoup. J'ai lu qu'ils pouvaient marcher entre 40 et 60 km par jour, munis d'une seule gourde. Donc les gens savaient marcher. Savait affronter les dangers de la route. La marche dans la Bible n'est pas seulement un élément de récit, la marche prend aussi un sens spirituel. Dieu appelle les hommes à se mettre en marche, comme Abraham, et puis Isaac, et Jacob. De cette famille de patriarches, il en a fait des nomades, alors qu'ils étaient sédentaires au départ. Et le Nouveau Testament, de même, nous appelle à quitter notre sédentarité, et à nous mettre en marche. Nous ne devons pas nous installer dans le monde présent. Nous devons marcher. Marcher en vue d'un but bien plus haut que nous. Ce but qui nous est promis, qui est l'espérance que nous avons dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que nous sommes invités à lever les yeux en marchant. Faisons un petit parcours dans l'Ancien Testament où l'on rencontre des hommes qui marchent. Énoch. Énoch a vécu en tous 365 ans, nous dit Genèse 5. Énoch marcha avec Dieu, nous dit le texte, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Il semble qu'il y a un lien très fort entre le fait qu'il ne fut plus et le fait qu'il avait marché avec Dieu. Et ainsi nous trouvons ce commentaire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, par la foi. Énoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et là, ce commentaire, en effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Marcher avec Dieu veut dire être agréable à Dieu. Enoch a été agréable dans sa manière de vivre sa vie devant Dieu. On retrouve un autre homme qui a marché devant Dieu, Noé, Genèse 6. Il est dit de lui que c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Le terme « juste », Noé était un homme juste, ne veut pas dire qu'il avait déjà toute la connaissance de la loi est apparue plus tard, il n'avait pas la connaissance non plus de Jésus, mais il a su entendre la voix de Dieu. Et dans un monde qui était devenu violent, méchant, Dieu a voulu faire s'écrouler ce qui était fragile, mortel. Il a fait couler le monde présent en demandant à Noé de sauver un petit reste de sa création. Et Dieu toujours préserve un petit reste de sa création. Dieu toujours permet qu'il y ait des recommencements. Si l'on poursuit notre itinéraire, nous arrivons à Abraham. Dieu a dit à Abraham, va. Va implique de marcher. Va, quitte ton pays. Et Abraham a 75 ans quand l'appel de Dieu retentit. Ce n'est pas un retraité inactif. Abraham obéit, il se met en marche et il part à 75 ans. Il quitte sa sécurité pour s'en aller vers une terre inconnue. Et un peu plus loin dans le récit, chapitre 17, nous lisons « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, et écoutez bien, marche, il a 99 ans, marche devant moi et sois intègre. » Ce mot intègre, nous l'avons déjà rencontré à propos de Noé. Il avait été dit de Noé que c'était un homme juste et intègre. Dieu demande à Abraham d'être intègre également. Un mot qui est parfois traduit par parfait. Sois parfait, marche dans ma présence et sois parfait. Ce n'est pas un terme qui qualifie le comportement moral au sens où Dieu demanderait simplement une rectitude morale parce que nous n'arriverons jamais à être parfait au sens de ne jamais commettre le moindre écart. Le mot parfait ici doit être compris dans le sens de ne plus chercher à pécher. Il y a une intention, une volonté. Et le mot parfait doit être compris dans le sens d'aimer Dieu de tout son cœur, d'être engagé dans la voie de Dieu. C'est dans ce sens-là que l'on est parfait. Être parfait, c'est avoir un cœur intègre. C'est être attaché à Dieu. C'est chercher à faire ce qui plaît à Dieu. C'est avoir un comportement droit, des attitudes qui sont justes. Dieu dit à Abraham, marche et sois intègre. Et Abraham deviendra le père de tous les croyants qui cherchent à être intègres devant Dieu. Il va marcher de campement en campement. Il va scruter le ciel la nuit. Et toute sa vie de nomade est une illustration de la marche chrétienne. Elle nous rappelle aussi que Dieu ne nous abandonne pas dans notre marche, même quand nous marchons la nuit. L'Ancien Testament fourmille d'autres personnages qui ont marché devant Dieu et qui nous ont donné des modèles à suivre. Par exemple, quand Abraham a été vieux, avancé en âge, il était préoccupé par le fait que son fils Isaac n'avait toujours pas d'épouse. Et alors, il demande à son serviteur, il fait même jurer à son serviteur, d'aller chercher une femme pour son fils, une femme qui pourra partager la même foi que lui, et donc d'aller trouver dans le clan familial une fille de la même foi en Dieu. Et Abraham est convaincu que si Dieu lui a fait une promesse liée à sa foi, cette fille ne pourra être qu'une fille croyante pour son fils. Et il dit ceci à son serviteur, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et te fera réussir ton voyage. » En d'autres termes, Abraham est convaincu que parce qu'il marche avec Dieu, Dieu va exaucer aussi son désir de foi. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi ce matin? Est-ce qu'au terme de ma vie, comme Abraham, je pourrai avoir l'assurance que j'ai marché devant Dieu, que j'ai cherché à faire sa volonté, que j'ai vécu en étant fidèlement attaché à lui? Abraham a marché devant Dieu. Isaac a marché devant Dieu. Jacob a marché devant Dieu. Jacob a marché devant Dieu malgré beaucoup d'errances, de détours, de mensonges, de peurs. mais Jacob a appris à grandir dans la foi. Et Dieu va le conduire dans sa marche. Un jour, il va même changer son nom. De Jacob, il va l'appeler Israël. Et d'Israël, il va faire sortir 12 tribus qui constituent le peuple hébreu. Dieu était fidèle dans la marche avec Jacob. Plus tard, le peuple hébreu a été en esclavage dans le désert. En Égypte. Il était en esclavage en Égypte, puis il a pu, sous la houlette de Moïse, quitter l'Égypte pour entreprendre un pèlerinage dans le désert en route vers la terre promise. Et le texte biblique nous dit « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. » Voyez que Dieu est là à tout moment de la marche, le jour comme la nuit. Il n'y a pas un moment où Dieu serait absent. Et le peuple a marché pendant 40 ans dans le désert. Une marche qui est devenue une marche de la foi, une marche de l'espérance. Au cours de cette marche, Dieu leur a donné 10 commandements pour donner un cadre de vie, pour donner une orientation à leur vie. Au cours de cette marche, ils ont dû apprendre comment Dieu agissait, comment il intervenait en pourvoyant leurs besoins, en leur donnant la manne, en leur donnant des cailles. Dieu était là tout au long de la marche. Une fois qu'ils arrivent dans le pays de Canaan, ils sont face à d'immenses murailles devant la ville de Jéricho. Et Dieu leur demande une chose qui n'a pas de sens sur un plan humain, il leur demande de tourner autour de la ville pendant 7 jours, avec uniquement des trompettes qui sont là pour résonner et faire tomber les murailles. C'était encore une marche de la foi. Face à des obstacles impossibles à franchir, il nous demande parfois simplement d'obéir. Et lui va faire s'écrouler les murailles. Au soir de sa vie, Josué convoque le peuple et leur donne une recommandation. Il sait que la marche avec Dieu n'est pas toujours aisée. Il leur dit « Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Et la recommandation de Josué sonne comme un avertissement. Nous verrons que plus tard, le peuple va souvent s'égarer, va souvent prendre des détours, des chemins qui sont des voies de garage, ou qui sont parfois des chemins à contresens. Facilement, on peut s'écarter du chemin. Le prophète Ézéchiel dira, alors qu'il parle au nom du Seigneur, « Mon troupeau erre sur les montagnes. Mon troupeau s'est perdu. Il a perdu le maître, il a perdu le but. Il ne sait plus qui suivre. » Un autre prophète, Jonas, sait très bien où il doit aller. Sa destination est Ninive. Mais il décide de prendre le sens contraire, le chemin opposé, pour fuir Dieu. Et nous lisons « Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis ». Et combien de fois n'avons-nous pas, dans notre propre vie, cherché à fuir, à nous éloigner, à chercher notre propre voie plutôt que d'entrer dans la voie du Seigneur? Et nous nous retrouvons déboussolés, errants, ne sachant plus trop où on en est. À Jonas, Dieu va accorder 3 jours dans le ventre d'un gros poisson pour qu'il ait le temps de se convertir, de changer de direction et de ressortir vivant. Et Dieu nous laisse toujours une chance. Il est toujours disposé à pardonner celui qui est prêt à reconnaître ses errements, ses égarements et à marcher de nouveau de manière intègre. Je poursuis mon cheminement au travers de l'Écriture et nous voyons dans le Nouveau Testament Marie, dont il est dit qu'elle se mit en route, elle aussi a avancé. À Pierre, Jésus dit « Avance au large, prends des risques pour moi ». À Paul, Jésus se révèle sur le chemin par lequel il venait. Et ce chemin sur lequel le Seigneur nous entraîne, c'est un chemin de vie, un chemin de grâce, un chemin de pardon et un chemin d'obéissance au Père Céleste. Quand on considère ce parcours et que nous nous arrêtons un moment, on peut se poser la question « Et moi, où en suis-je dans ma route ?» sur quel chemin est-ce que je suis actuellement? Quel est le chemin que j'emprunte? Au terme de nos vacances, nous avons fait une course en montagne avec nos deux enfants et nous avons choisi d'aller dormir dans une cabane, un refuge alpin. J'avais bien étudié la carte, notre chemin devait passer par un col en altitude à 2600 mètres. Je savais que c'était un chemin un peu difficile, j'avais quelques hésitations à l'emprunter. Je savais qu'on allait, d'après la carte, passer dans des sentiers vraiment très étroits, au milieu de rocailles, au milieu de rochers. Je savais que le terrain était balisé en itinéraire qui pouvait peut-être être compliqué. Et j'avais vu les prévisions météorologiques qui annonçaient un fort orage. En tout cas, des orages possibles le jour où nous partions pour monter à la cabane. Donc il fallait impérativement partir très tôt le matin pour passer avant l'orage qui généralement éclate en début d'après-midi. Et le soir précédent, je ne voulais pas faire prendre de risques inutiles à mes enfants et je suis encore descendu pour aller réétudier la carte et me dire est-ce que c'est bien et est-ce que c'est sage de prendre cet itinéraire. J'ai étudié un itinéraire alternatif et j'ai demandé au Seigneur aussi de nous conduire pour que je fasse le bon choix le lendemain matin. Nous sommes partis, on a pris le véhicule jusqu'au départ de la course. Puis là, j'ai pris la décision de prendre l'itinéraire inverse, qui était un itinéraire beaucoup plus facile pour monter à la cabane et de prendre la partie difficile le lendemain matin, alors qu'il ferait beau d'après les prévisions météo. Bien nous en a pris. On n'a essuyé que quelques gouttes pour monter à la cabane, mais le lendemain, effectivement, nous sommes montés par un sentier où il y avait le précipice, il ne fallait pas faire de faux pas. On arrive au sommet du col, et dans la pente, une pente très herbeuse, très raide, lorsque nous faisons un faux pas, nous glissons, ne pouvons plus nous arrêter. Et j'ai appris qu'il y avait eu plusieurs morts sur cet itinéraire, et le jour même où nous faisions cet itinéraire, eh bien, nous avons rencontré les Picasso de la montagne qui étaient en train de repeindre l'itinéraire pour le signaler comme itinéraire dangereux. Nous avons croisé, ils m'ont dit bon. Enfin, ils ont parlé à mes enfants en disant vous féliciterez votre père, il a fait le bon choix en changeant d'itinéraire. Et pour moi, c'était une reconnaissance au Seigneur. Quand on s'adresse à lui, qu'on lui demande de la sagesse pour l'itinéraire, Dieu nous inspire, Dieu nous guide. Et là, il nous avait visiblement guidés. Nous avons pu faire cet itinéraire sur route, enfin sur sentier plus ou moins sec, ce qui réduisait considérablement les risques. Et puis nous sommes arrivés sains et saufs, sans difficulté. Mais dans la vie chrétienne, il en va de même. Nous pensons parfois que la vie chrétienne sera balisée, sera large, c'est un chemin facile, alors que nous nous écorchons bien souvent. Alors que le sentier est décrit comme un sentier étroit dans la parole de Dieu. Il y a des embûches sur la route. Et nous devons nous préparer, nous devons être équipés correctement si nous ne voulons pas tomber en chemin. Il faut savoir où l'on veut aller, il faut étudier les plans, étudier la parole, il faut avoir repéré l'itinéraire et peut-être éviter certains chemins qui seraient trop délicats parce que nous n'aurions pas encore une foi assez mature. Il faut avoir un équipement adéquat et c'est Paul qui nous décrit cet équipement adéquat pour le chemin de la vie chrétienne. En Éphésiens 6, il nous dit qu'il y a la parole. Si nous sommes enracinés dans la parole, nous serons capables de séparer le vrai du faux et donc de prendre un chemin de vie et non pas un chemin de mort. Paul nous dit qu'il y a la prière fervente, la prière persévérante. Cette prière, elle exprime notre dépendance à l'égard de Dieu. Nous ne partons pas seuls sur la route, nous partons avec Dieu et nous restons unis à lui par la prière. Paul parle de la ceinture de la vérité. Et c'est une manière de dire que notre esprit doit être saturé des vérités bibliques et qu'ainsi nous serons à même de repousser l'adversaire quand il va nous tenter. Il nous dit qu'il y a la cuirasse de la droiture. Eh bien, quand nous marchons d'une manière intègre, nous sommes protégés de nombre de dangers. Il nous parle des chaussures adéquates pour aller en terrain difficile et qui nous disent l'importance de nous mettre en route et d'aller servir Dieu. Il nous parle du bouclier de la foi qui nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu. Et finalement, il nous parle du casque du salut. Ce casque du salut doit nous inviter à la joie. Et la joie est une force. La joie de nous savoir sauvés. La joie de nous savoir entre les mains de Dieu est pour nous comme une force qui nous permet d'avancer quand le chemin devient plus difficile. On pourrait prendre le temps de parcourir les textes du Nouveau Testament qui nous parlent de la marche. Le temps est trop court pour que j'en fasse l'inventaire. J'ai pris le temps de vérifier dans une concordance. Et c'est très instructif. Je vous en donne juste quelques éléments, quelques éclairages. Bien sûr, quand il est question de la marche dans le Nouveau Testament, il est d'abord question de la marche physique, de Jésus qui marche en Galilée, qui marche le long de la mer, qui marche aux abords du temple, qui marche parfois même sur la mer. Mais le verbe marcher a parfois un double sens. Paralytique, Jésus dit « lève-toi et marche ». Dans le sens premier, le paralytique est invité à se lever physiquement. Mais cette guérison est aussi une mise en marche spirituelle pour le paralytique. Certains parfois s'éloignent. Au lieu de marcher avec Jésus, ils s'égarent. On lit dans Jean 6, « Nombre de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec Jésus ». Et du diable, il est dit qu'il est comme celui qui rôde, qui marche, cherchant qui il pourra dévorer. Nous sommes donc prévenus, l'itinéraire n'est pas sans danger. Le verbe marcher est aussi employé vraiment au sens figuré. On le traduit généralement par se conduire, se comporter. Paul va dire par exemple, Éphésiens 5, « Prenez bien garde à la manière dont vous marchez ». On ne s'aventure pas à la légère. Prenez bien garde. Nous trouvons dans l'Écriture des parallèles. On peut marcher soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Paul dit « marcher comme des enfants de lumière ». On peut marcher de jour ou on peut marcher de nuit. Jean 11 nous dit « quand on marche le jour, on ne trébuche pas, mais quand on marche la nuit, on trébuche ». Il y a des choses que l'on se permet la nuit, que l'on ne se permettrait jamais le jour. Au sens vrai du terme, au sens premier du terme. Il y a des oiseaux de nuit à Paris qui vivent la nuit, mais qui vivent une vie de débauche. On ne vit pas la même chose la journée et la nuit. Nous sommes invités à marcher en plein jour, sans avoir rien à cacher. Romains 13, comme il s'y est en plein jour, marchons avec dignité. Les épîtres retentissent de cet appel à marcher dignement, comme on l'avait vu dans l'Ancien Testament, où il était dit « marche de manière intègre ». Éphésiens 4, « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu ». 1 Thessaloniciens 2, « Nous vous avons adjuré de marcher d'une manière digne du Dieu qui vous appelle ». Et d'autres versets poursuivent la même thématique, « marcher d'une manière digne ». Qu'est-ce que cela veut dire, « marcher d'une manière digne », »,« marcher d'une manière intègre » ? Colossiens 2 nous dit « C'est en Christ » qu'il vous faut marcher. Et quand on marche en Christ, on marche avec son esprit. Et Paul va dire, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ou il dira en Éphésiens 4, ne marchez plus comme des païens qui marchent dans la vanité de leur jugement. Parfois on peut s'égarer sans s'en rendre compte. Paul pose la question aux Corinthiens, leur dit, ne marchez-vous pas de façon toute humaine ? Eux qui se croient hyper spirituels, très engagé avec Dieu et son esprit, Paul se permet de leur demander s'il ne marche pas d'une manière toute humaine. Comment est-ce que je marche ? Est-ce que je marche bien droit ? Ceux qui s'éloignent du Seigneur marchent sur des chemins tortueux, nous dit l'Écriture. Mais nous lisons aussi que Dieu est là pour redresser ce qui a été courbé, pour rendre droit ce qui était tordu. Dieu veut qu'on s'aligne sur lui, qu'on marche dans la droite ligne de l'esprit. Galates 5 encore, si nous vivons par l'esprit, marchons dans la ligne de l'esprit. Marchons dans la ligne de l'esprit, littéralement. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres. Pierre nous dit, devenez saints dans toute votre conduite. Le terme se conduire vient du terme marcher. Finalement, marcher la vie chrétienne, c'est marcher avec le Seigneur. Jésus a dit qu'il était ce chemin que nous devions suivre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Si je veux emprunter la voie du ciel, je dois passer par Jésus-Christ. C'est lui qui est mon berger. C'est lui qui est mon guide. C'est même lui qui est la porte qui me permet d'entrer dans le bon chemin. Ce chemin étroit, qui est le chemin de la vie éternelle. J'aimerais vous inviter, je ne sais pas où vous en êtes ce matin. dans votre itinéraire de la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous inviter à laisser le Seigneur se frayer un chemin dans votre vie. Dans le Nouveau Testament, Jésus apparaît souvent sur la route des estropiés, sur la route des aveugles, des boiteux, des infirmes, des lépreux. Jésus est venu pour se charger de nos infirmités. Il est venu pour nous guérir de notre péché et de toutes les blessures que le péché a occasionnées dans notre vie et dans la vie des autres. Le Seigneur nous ouvre un chemin de paix, un chemin de vie, une voie de salut. Vous savez, en montagne, il y a toutes sortes de voies et ceux qui font de l'escalade peuvent faire des voies parfois très compliquées. Mais Jésus nous a ouvert une voie de salut. Il a versé son sang pour nous ouvrir un accès dans un lieu qui était préservé et impossible à atteindre jusque-là. Par son sang, il nous a ouvert l'accès jusque dans le lieu très saint, le lieu même de la présence de Dieu. Si nous nous mettons en route avec Jésus, ou si nous reprenons la route, parce que nous sommes peut-être assis en chemin, Jésus va faire route avec nous. Et même il va nous devancer, être là devant nous pour éclairer la route. Si nous sommes égarés, demandons au Seigneur de pouvoir faire route de nouveau avec lui. Dans l'Écriture, le croyant est décrit comme un pèlerin, comme un nomade, et je dis en début de prédication. Un nomade qui lève les yeux vers le ciel, et non pas un sédentaire qui est attaché aux choses de la terre. Celui qui se sédentarise n'a plus besoin de compter sur Dieu. Il va accumuler ses possessions, il va compter sur ses propres forces, il va construire des greniers pour entreposer ses richesses. Et un jour, Dieu le surprendra par la mort et il perdra tout. Mais Dieu n'est pas un Dieu sédentaire, il est un Dieu nomade qui marche à nos côtés ou devant nous. Souvenez-vous de ce que nous avons vu à propos d'Abraham. Dieu lui a demandé, enfin lui a dit, « Marche en ma présence et sois intègre ». Et cet appel vaut pour tous les croyants aujourd'hui. L'appel de Jésus ce matin est le suivant. « Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. » Amen.